Tu sais que c'est mon épisode préféré de l'année, Benji.
Mais moi aussi.
C'est celui qu'on a fait en live.
C'est quand même plus sympa en live.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je dis en
général ? C'est un des épisodes les moins préparés de l'année aussi, comme d'habitude.
Ouais, et en même temps, moins préparé, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Ouais, voilà, on a beaucoup de sujets là en plus.
C'est comme si tout se concentrait pour ce moment-là.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement, le reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
After Eight, épisode After Eight 162. After Eight est un podcast qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, manga. Et on va beaucoup parler de ciné, bizarrement, mais aussi pas que. Pas que, on va parler musique aussi, je pense.
Déjà, j'apprécie ton lancement que tu as fait sans lire le conducteur.
T'as vu ça ?
Incroyable.
Des années. De tête. Hein.
Après 162 épisodes.
Pour nous envoyer des listes, c'est facile. Benji, comment tu vas ?
Eh ben, écoute, je suis éclaté là. Je ne sais pas si c'est le pollen ou si j'ai juste chopé un truc. Mais tu vois, alors, je vais aller direct dans le vif du sujet. Déjà, bonjour Daniel.
Bonjour et bonjour à tous. Et
voilà, bonjour aux auditeurs. Je suis arrivé donc, la semaine dernière de ma nouvelle patrie, si j'ose dire.
Oui, c'est vrai. Déjà, il faut mettre l'hymne américain.
Voilà.
Que maintenant, ça y est, tu as la double nationalité.
Voilà, donc on va demander au monteur de nous mettre le Star Spangled Banner en fond.
Là, bisous,
voilà,
bisous Baptiste.
Les gens en profitent. Voilà, je suis arrivé de LA la semaine dernière et dans l'avion, il y avait une personne devant moi. Je dirais que c'était un homme qui avait environ... il avait entre 70... un peu plus de 70 ans, je pense, voilà, à vue de nez. Et il a toussé pendant quasiment tout le vol. Mais vraiment, pendant tout le vol, il a toussé. Et moi, je me disais, s'il nous refile un truc, mais je vais être trop vénère si je suis malade.
Mais ça, c'est le problème de cette nouvelle génération. C'est que dès qu'il y a un mec qui tousse maintenant...
Eh ben maintenant, on flippe, quoi.
T'as l'impression qu'il y a une planète qui va s'écraser sur ta gueule.
Et tu vois, il prenait son sweatshirt et il se mettait la bouche dedans, là, comme ça. Voilà, tu vois, je parle comme ça, c'est si je me mets la bouche dedans.
Ouais.
Et à un moment, je me disais, mais bon, OK, il a peut-être pas de masque sur lui. Je trouve ça un peu dommage que parmi le personnel, genre les hôtesses, lui en proposent un. Peut-être qu'ils en ont pas non plus. Et quand on arrive à Roissy, le mec, il avait un masque.
Ah ouais ?
Et donc, du coup, je me suis demandé, mais alors peut-être qu'il en a trouvé un à Roissy, je sais pas, mais...
T'es allé lui parler pour lui demander ?
Non, je suis pas allé lui demander. Mais s'il a attendu tout le vol à tousser dans l'avion pour mettre un masque une fois arrivé à l'aéroport, je t'avoue que j'étais un petit peu désappointé.
Les gens qui sont aussi sur Twitter le savent.
Ah, mais on est tous les deux malades. Hein.
C'est la période du rhume des fois et je vais éternuer quelques fois, je pense.
Voilà, parce qu'on est rentré à pied du ciné. Donc,
et je vais te demander aussi de pas me juger... mon apparence qui va se liquéfier au fur et à mesure.
Déjà, t'es tout rouge.
Ben ouais, je suis tout rouge. Alors du coup, je vais commencer par les musiques avec toi, Benji.
Oh là là.
Autant des pommes et laptops et des Autobots. Rendez-vous au burger ou au magasin Coop. Sur l'écran plein, c'est du hip-hop. Yo, MTV Rap, Madonna et RuPaul. Le fleuron de l'époque était le starter Primo Guru, Michael Schumacher.
Ouais.
Avant-gardiste au temps d'Optimus, je vendais des bootlegs de Biggie Opus. Certains m'appelaient le joueur de Tetris, archéopuriste, super futuriste. Moi qui croyais que tout était figé, une Porsche vient de se transformer.
Oui, donc c'est la chanson de MC Solar qui est à la fin du film Transformers Rise of the Beast, c'est ça le titre ?
Je crois. Et alors, j'ai envie de te dire, on nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons.
Quel flow, Daniel, quel flow.
On nous informe que tout se transforme comme les Decepticons.
Voilà, donc c'est la chanson de MC Solar qui est à la fin du film Transformers. Et je dois t'avouer que venant de la part d'MC Solar, je m'attendais un peu moins de premier degré, un peu plus de métaphore, mais non, c'est vraiment archi littéral.
Est-ce
en fait.
Que tu veux que je continue ? Parce que t'as pas eu tous les...
Oh, bah,
je skip le refrain.
Ouais.
J'ai ouvert la tour avec Bumblebee. On m'a dit, plus tard ce soir, c'est de la folie. Il y a des sports de tout style. Paix à Daniel. Alors, je sais pas, il parle de quel Daniel ?
Ah, je suis pas persuadé. Alors, attends, des sports de tout style ?
Ouais.
Alors, Daniel Balavoine qui est mort sur le Paris-Dakar ?
Ah, peut-être, oui.
Ouais, je sais pas, c'est éloigné comme référence.
Il te frappe en diagonale parce qu'il fait du padel. Zinedine Zidane, l'attaque en pyromane, a capturé l'étoile et redoré la flamme. Il y avait dans la tête des fans de la Schiffer. Je pense que c'est Claudia Schiffer.
Ouais, je pense. Ouais, parce que c'est l'époque où, tu sais, il y a eu Batman et ensuite il y a eu Esprit Rebelle. Donc, Claudia Schiffer, mais non, je dis n'importe quoi, c'est Michelle Pfeiffer. Claudia Schiffer, c'est la top modèle. Voilà, qui est bah oui, dans les
au kebab
90.
D'à côté, c'était Bacon Burger. Je te parle du temps, du Wesh la famille, du Club Dorothée, de Rémi sans famille.
Non, mais en fait, c'est la chanson, c'est Wesh le film des années 90. Wesh, c'est ça.
Ben oui, maintenant il y a la Wi-Fi. Face à la Joconde, on fait des selfies.
La Wi-Fi, putain.
Et attention, Claude, prépare-toi. Et comme Michael, I remember the time. There will be all kitsch, quick and free time. J'ai pas vu Vegas depuis la mort de Tupac. Si tu comptes en année, c'est pas que tu comprendras que ça date, c'est 21 plus 4. Je pense que c'est pour avoir le bon nombre de pieds là.
Ouais, ouais.
Je voulais être Mirage, un peu plus, beaucoup, des coups de boule et des coudes. Il en a mis beaucoup. Encore un effort et je deviendrai plus fort que JJ Okocha dans l'équipe de Francfort.
Non mais voilà.
Ah, est-ce que tu vois qui est JJ Okocha?
Je vois qui est JJ Okocha.
Ah, et t'as connu le PSG de cette époque?
J'étais en France à l'époque quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais non, le truc qui est zinzin, c'est que, puisque c'est, on a dit, donc la chanson qui illustre la fin du film Transformers.
Je l'ai pas fini, il reste un tout petit peu.
Mais en fait, c'est ça, c'est années 90, la chanson, il place le maximum de références et c'est exactement ce que fait le film dans sa première demi-heure.
Il faut pas que j'élude que dans la banlieue sud, beaucoup lâchaient les études pour aller vers de stud. It's over, n'appelez pas le sauveur. Pour la terre promise, on a le Range Rover.
Putain! Mais Claude, qu'est-ce que t'as fait?
Et tu sais quoi, je trouve ça rigolo.
Je pense que c'est une commande et qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour la faire. Voilà. La chanson te rappelle en permanence que le film se déroule dans les années 90, ce que fait le film pendant toute sa première demi-heure, en fait. Avec un maximum de références aux années 90.
C'est vrai, c'est ce que j'appelle du time dropping.
Ouais.
C'est quand un film commence et tout d'un coup, t'entends, dans 3 secondes, nous allons savoir qui est le président de 1980 avec le truc en Minitel.
C'est presque ça en plus. Hein, 3, parce que t'as un moment.
2, où... 1. Ah, Mitterrand, François Mitterrand est élu président.
T'as un moment dans le film où tu vois un extrait des infos et c'est O.J. Simpson. Déjà, le truc s'ouvre sur un plan de Manhattan et tu vois les Twin Towers. Enfin voilà, non, c'est vraiment.
Ah, j'ai pas gaulé les Twin Towers.
Ouais, si, les Twin Towers.
En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de, références temporelles.
Il y en a beaucoup, ouais. Il y a un petit gamin qui joue au Game Boy, même qui dit qu'il n'arrive pas à battre Bowser. Et donc, du coup, comme je suis un gros nerd de merde, je me suis penché sur toi en disant c'est con, il n'y a pas Bowser dans les jeux Mario sur Game Boy.
Bowser n'apparaît pas.
Ouais. Bah non. Et puis, il y a aussi un moment où il y a une meuf qui utilise un ordinateur. Et
mais peut-être que lui, il savait pas que c'était pas Bowser.
Peut-être qu'il savait pas. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il y ait Bowser, justement. Mais donc, à un moment, il y a une meuf qui utilise un ordinateur et les fenêtres, c'est l'interface de Windows 3.1 et ensuite, il y a une barre d'étage de Windows 95 alors que le film se déroule en 1994. Voilà, je suis un ordre de merde.
Ouais. Tu aurais pu gâcher un film.
Ça m'a gâché le film, moi, perso. Moi, c'est là où ma suspension d'incrédulité s'est arrêtée. Genre, je suis désolé, mais je peux admettre les robots géants qui parlent. Ce qui, quand même, bon, ça fait 6 films qu'on l'a admis. Je pense qu'il y a un moment où, tu vas avoir un film Transformers, tu sais que tu vas avoir des trucs idiots, mais...
J'ai un problème avec ces robots parce qu'ils étaient... si moche avant, période Michael Bay.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, le précédent film qui se déroule en 86, ils étaient OK. Genre, visuellement, ils avaient une tête...
Bumblebee.
Ils ressemblaient à Optimus, ils ressemblaient à celui qu'on avait dans l'animé, mais en version 3D.
Ouais, je trouve qu'Optimus, il ressemble toujours quand même un peu à celui qu'on avait avant. Hein.
Et là, maintenant, ils sont repartis en période pré-Michael Bay, c'est-à-dire ouais, avec des petits ressorts à des pistons partout qui servent à rien. Et j'aime pas ça, je trouve ça c'est très très laid, je trouve ça très vilain.
Le principal problème que j'ai toujours eu avec les films Transformers, c'est qu'une fois transformés en forme robot, il n'y a plus grand-chose de leur forme véhicule, en fait. Optimus, à part...
Il faut qu'il y ait une couleur, sinon tu les identifies pas.
Voilà, Optimus, à part sa poitrine, où tu reconnais encore plus ou moins la cabine de pilotage du camion.
Non, et puis c'est la voix de... Putain, j'allais faire la voix de Peter Cullen, mais en fait, pourquoi, je sais pas, j'allais pas faire la voix de Balkany.
Donc voilà, donc nous avons vu Transformers, Rise of the Beasts, et on va être honnête, bah, Bumblebee, c'était mieux.
Ouais, Bumblebee était mieux, mais alors, est-ce que je préfère ça au film de Michael Bay? Parce qu'il n'y a pas le fascisme ambiant, parce qu'il
n'y a pas Optimus Prime qui exécute un adversaire dans le dos alors qu'il est au sol et en train de demander grâce.
Sur fond de drapeau américain, pardon, ton drapeau.
Sur fond de mon drapeau. Ouais, honnêtement, j'aurais... Enfin, tu vois, là, tu me demandes de classer du caca avec du vomi, quoi. C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est pas...
C'était pas si nul que ça, mais parce que j'ai vu bien pire.
J'ai un vrai problème pour... Bah, parce que pour moi, les Transformers, ça devrait s'adresser aux gosses, quoi.
Ouais, ça s'adresse pas vraiment aux enfants.
Ok, c'est pas mémorable comme cinéma, mais il faut au moins que ça s'adresse aux gosses. Et je trouve que je sais pas si les gosses y trouvent leur compte là. Et en plus, il y a un point de vue, il y a un gamin quand même, un héros, donc tu pourrais jouer là-dessus, mais en fait.
Et je suis d'accord que c'est pas mémorable, mais dans le même temps, je veux pas chier sur le travail des gens qui ont fait les VFX parce que c'est quand même super bien fait, quoi. Faut dire ce qui est. Maintenant, on est blasé un peu, on en a tellement vu qu'on fait plus trop attention, mais t'as quand même. T'as quasiment pas un plan sans VFX. Super chiadé sur des robots géants, donc c'est quand même
là
plutôt
où
pas
j'ai
mal
jamais
foutu,
vu, j'ai pas vu ça arriver, mais c'est le crossover avec Jem et les hologrammes, quoi.
Alors, est-ce que tu veux qu'on se mette à spoiler ou...
Ah non, pas encore. Attends, laissez aux gens le temps de le regarder.
C'est vrai.
D'ailleurs, on pourra y revenir dans l'épisode de classement.
On l'avait classé dans le vent ?
Oui, on l'avait. Ah bah oui, bien sûr.
Tu sais quel film on a oublié de classer dans le vent ? C'est la préquelle de Hunger Games.
Alors, est-ce que c'est vraiment un blockbuster ou est-ce que ça va être.
Quand même, ouais. C'est quand même. Les précédents étaient des blockbusters. Celui-là est peut-être fait avec un budget plus réduit, je sais pas, mais. Pour moi, ça s'inscrit clairement dans une démarche de blockbuster, de grosse franchise.
Ouais, non, je reconnais, mais en fait, pourquoi ? Parce que sans doute, je ne l'ai pas vu à haut nom.
Moi, je me le.
Ça devait s'appeler Mockingbird, quelque chose.
Je ne sais plus ce que c'est, je ne m'y attendais plus, non plus, mais c'est vrai que j'ai vu la bande-annonce y a pas assez... avant Fast 10. J'ai vu la bande-annonce. Donc, ouais. Tu veux qu'on parle de Fast 10 ? On a préféré Fast 10 à Transformers.
On a préféré Fast 10, mais tu sais quoi ? C'est vrai que cet épisode est un peu placé sous le site des blockbusters, puisque j'ai insisté que tu en vois un.
Donc tu veux pas parler de Fast 10. Vas-y, c'est pas grave.
Non, on va parler du Vin Gasoil.
On va parler du Vin Gasoil Universe.
Ouais, c'est-à-dire il y a Vin Diesel, donc c'est là où il y a plein d'acteurs connus, et le Vin Gasoil, c'est en général, dedans, il y a un nain.
Il y a un nain, il y a Ramsey qui s'est perdu.
Et il y a Ramsey qui s'est perdu, donc t'as vu Medellin alors ?
J'ai vu Medellin, ouais.
Est-ce que t'as pas l'impression de redevenir français quand tu vois ce genre de film ?
J'ai l'impression que j'ai vraiment plus envie d'être français quand je vois ce genre de film.
Ah ouais, t'as pas aimé ?
Alors le mot est faible.
Je l'ai vu il y a quelques temps, donc. Mais
je l'ai vu avant-hier.
Je fais une projo.
Et je l'ai vu comme Christopher Nolan l'aurait voulu. Hein, je l'ai regardé sur mon téléphone.
Ouais.
C'était c'était nul à chier. Enfin, y a rien à sauver là-dedans. Je suis désolé. Que ce soit.
Stéphane a plus aimé que toi, j'ai l'impression.
Non, Stéphane a dit qu'il a préféré le Astérix de Guillaume Canet à Medellin, et je suis pas loin d'être d'accord, parce qu'au moins dans le Astérix de Guillaume Canet, il y a Vincent Cassel qui fait le meilleur Jules César qu'on a eu dans un Astérix. Je fais partie des gens qui sont pas des ultras du Astérix de Chabat.
Ah ouais, tu fais pas les. T'es pas
parti. Je pense clairement que le Astérix de Chabat est le meilleur de tous les Astérix sortis au cinéma, il n'y a aucun problème là-dessus, mais. Je suis pas un ultra de ce film, en fait. Je l'ai vu une fois, je dis ouais, ok, et j'ai jamais ressenti le besoin de le revoir.
J'ai vu une fois le jour de mon bac, et je crois que j'ai jamais revu en entier.
Et je crois que Vincent Cassel en Jules César me fait plus rire que Chabat me fait rire en Jules César, en fait.
Ouais, mais bon, est-ce que Vincent Cassel, il a pas été cancel depuis entre-temps que tu...
Ah, ça, c'est pas impossible, ouais.
Tu sais, c'est le problème de tous ces films, mais heureusement, il y a que des gens propres dans Medellin, à savoir Mike Tyson.
Bon, alors Medellin, ouais, donc on peut en parler. Est-ce qu'il y a des vannes qui t'ont fait rire dans Medellin ? Moi, il y en a une qui m'a fait sourire.
C'est laquelle ?
C'est quand il dit « Ouais, allez, on y va, on va en Colombie, on bute le cartel, on y va, on est tous, on est partis !» Et ils arrivent à l'aéroport, ils sont deux, ouais. Plus un mec qui est un nain, qui est beaucoup, 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 beaucoup trop sûr de lui, en fait.
Qui est trop sûr de lui, et puis surtout, il l'écoute pas, quoi.
Alors, le fait qu'il l'écoute pas, ça, j'ai pas trouvé ça drôle. Le fait que le mec soit super sûr de lui, je trouvais ça intéressant dans l'idée pour le gag. Et donc, quand il est à l'aéroport, il fait « Allez, messieurs, on y va, c'est bon, je suis là, pas de problème. » Allons-y, messieurs. Puis après, ça dure un peu trop longtemps.
Est-ce qu'on peut dire que Ramsey est très drôle, quand même ?
Non.
Ouais, mais je pense qu'humainement, il est très drôle.
Ah, mais Ramsey. Oui, mais tu vois, la vidéo de Squeezie avec Eric et Ramsey, a chialé de rire.
Je pleure de rire avec cette vidéo.
Incroyable. Ramsey, en plus, dans
T'as déjà vu celle où il pète le Faucon Millennium chez comment il s'appelle, les mecs ? Putain, les mecs connus et que nous, je suis le seul à pas me souvenir. Carlito, McFly,
Carlito, non, j'ai pas vu.
Ah, il pète le Faucon Millennium en Lego. Et ils arrivent, ils font « Ah, oh, ça vaut une fortune, ça !»
Et ils le pètent.
Et le mec, il le défonce.
J'ai pas vu ça, mais tu vois, Ramsey, le truc, c'est que dans le film, là, il est pas en train d'improviser, donc il est pas drôle. Il est en train de suivre un script, et il y a même des moments où t'as l'impression qu'il lit ses répliques, où il est pas du tout dedans, quoi. Il a un très bel accent espagnol, il parle très bien espagnol, faut lui reconnaître ça, mais...
Je te remercie. Ah non, pardon, tu parlais de Ramsey.
Mais dans Medellin, Ramsey, pour moi, il est limite pas là, quoi. Enfin,
Il est vite débarrassé. Alors, il y a un truc que tu vois en général qu'un film est réalisé par un mec et écrit par un mec, c'est en général la vitesse à laquelle il se tape la stripteaseuse dans le film. Et quand j'ai vu qu'il se tapait la stripteaseuse, à la fois flic et tout, je fais... Oh là là, et qu'elle peut pas s'empêcher quand même de rouler des galoches à Frank Gastambide, j'ai fait, c'est pas possible. Ce genre de film, j'ai plus envie de voir ça, quoi. C'est ouf.
Après, il est plutôt beau garçon, on va pas se mentir, mais...
Ouais, non, mais stop, quoi. Stop, le film à couilles, là, c'est pas plus...
Mais oui, de toute façon, le film, les mecs, à peine arrivés au Colombie, on leur dit, faut aller au Bar La Puta. Et c'est quoi, le Bar La Puta ? Il y a quand même quelqu'un qui demande, et c'est quoi, le Bar La Puta ? Le Bar à pute. Ah, ok, parce que c'était pas encore assez subtil, fallait qu'on précise.
Il fallait préciser, ouais.
Voilà, et...
C'est le niveau du film.
Et quoi. Oui, à partir du moment où tu vois la stripteaseuse, et en plus, la stripteaseuse qui, comme par hasard, parle un peu français, tu dis, ouais, ok, bon, je vois déjà venir le twist. Là, on spoil, là, par contre, on en a rien à foutre.
Non, mais c'est Medellin.
Donc, oui, voilà, la stripteaseuse est une flic infiltrée.
C'est sur Amazon Prime, on l'a.
C'est sur Amazon Prime. La stripteaseuse est une flic infiltrée dont le service est corrompu, mais on le voit pas, en fait, ça. Tu la vois aller parler à ses chefs, et puis après, non, en fait, je vais aller voir mon pote qui est un ex de la CIA, qui est en planque et qui va vous aider. C'est le cartel.
C'est vraiment ridicule.
C'est censé être le cartel le plus puissant de la Colombie. Les mecs, ils sont 40 grand max. Parce qu'une fois qu'ils ont massacré les 40 mecs, c'est fini. Le cartel n'existe plus, quoi. C'est pas comme ça que ça marche un cartel.
Est-ce que t'as vu le twist de la tristesse arriver ou pas? Parce qu'il y a un moment, le ton change.
Moi, j'ai trouvé que pour une comédie, c'était vraiment jamais drôle. Il y a très peu de vannes au final.
Non, mais quand il y a des courses en bagnole et qu'ils crient dans la voiture en faisant c'est supposé drôle.
C'est supposé être drôle. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé que le film, justement, savait pas ce qu'il était, en fait. Que c'était à la fois comédie, à la fois film d'action, et à la fois, film un peu triste, surtout à la fin, là. Le truc, elle se positionne pas, en fait. C'était pas une comédie potache à la con, où éventuellement, j'aurais pu... Si ça avait été des vannes du genre, messieurs, écoutez, je suis là, on y va, messieurs, tout ça, j'aurais peut-être pu rigoler à un moment. Mais le film a du mal à se positionner. Parce que genre, attends, il y a un training montage où tu vois les mecs tirer à la R15 sur des cibles.
Avec Mike Tyson qui les coach. C'est ridicule.
Je veux dire, mais à quel moment t'es censé rigoler là-dedans? Bah c'est pas drôle. Et même en matière de training montage, c'est nul. C'est juste des mecs qui tirent sur une cible et progressivement, ils deviennent bons, quoi.
C'est pas très bien.
Les mecs, ils font une heure d'entraînement au tir sur cible et ensuite, c'est des snipers, c'est des tireurs d'élite, c'est incroyable, quoi. Donc c'est compliqué. Hein.
Décevant.
Pas décevant, fallait espérer quelque chose. J'espérais pas grand-chose.
Non, mais voilà, par rapport au budget, par rapport, je sais pas...
Ouais. Après, comme je te disais, hein, c'est le premier film que je vois de Franck Gastambide et j'espère le dernier parce que...
Je veux juste te rassurer, c'est le moins bon.
Ouais.
Je pense que Pattaya est meilleur, mais Pattaya est pas super, mais en fait, ce qui est intéressant dans Pattaya, c'est les 15 premières minutes qui sont vraiment bien. Alors après, est-ce que je t'encourage à regarder les 15 premières minutes? Oui, mais après, tu peux lâcher le film. Ouais. À partir du moment où je crois qu'il y a un caca, il y a du caca, je pense que c'est moins bien. Mais je sais que t'as une tendresse pour les films avec
les films avec les blagues caca.
Ouais, beaucoup de caca, beaucoup de caca.
Ça peut me parler.
Et il a fait aussi les Kaira.
Il a fait Taxi 5 aussi.
Taxi 5, c'est vrai. Ah, Taxi 5. Je crois que c'est moins bien que Taxi 5 quand même. Ça.
Et tu vois, Taxi 5, bah, tu sens que ça lui a laissé des traces parce que dans Medellin, il conduit comme un pilote. Et c'est là où je me dis, en plus, il a la dégaine, il a envie d'être le Vin Gasoil. Il veut faire Fast and Furious à la française.
Mais en plus, ce personnage est un peu incohérent parce qu'il change de chaque scène en chaque scène, tu comprends pas vraiment.
Ah, son perso à lui, ouais.
Genre, c'est le Deus Ex Machina, à chaque fois, il sait faire le truc qu'il faut faire. C'est un peu lassant, en fait, comme narration, en fait.
J'aime bien aussi comment fonctionne la gestion des langues. Alors, t'as quand même, au début, seul Ramzy qui parle espagnol et qui comprend les autres. Et puis, à un moment, Ramzy, il envoie des vidéos en français au chef du cartel et tu sens que le chef du cartel, il comprend alors qu'il n'est pas censé comprendre.
Ah, il est joué par... c'est pas genre Danny Trejo, non?
Non, c'est... comment il s'appelle l'acteur? C'est pas Danny Trejo.
C'est Tuco. C'est le mec qui joue
c'est
Tuco.
C'est ça, c'est Tuco. Ouais.
Excuse-moi, je me suis trompé de mafieux.
Mais avec une barbe, donc il a l'air plus vieux.
Ouais, c'est vrai. Bref, c'était pas une très grande réussite.
Bref, c'était pas ouf. Ça, c'est un euphémisme, tu vois. C'est un truc qui manque un peu à Chanson d'M6. Ouais.
J'ai juste un pas d'avance sur toi. C'est le premier podcast qu'on enregistre depuis mon retour de Cannes, en fait.
C'est vrai.
Alors que je suis rentré il y a 2 semaines, tout va bien, je suis vivant, rassurez-vous. Et j'ai vu un blockbuster là-bas, j'ai vu Indiana Jones.
Ouais.
Bah alors, je vais tout vous raconter scène par scène.
Bah après, t'as le droit d'en parler, non? Il est sorti au festival.
Ah bah il est sorti au festival, ouais. T'as le droit d'en parler, bien sûr.
Mais par contre, ce serait bien que t'en parles pas, parce que moi, je sais pas quand il sort, mais je l'ai pas vu.
Bah écoute, c'était.
Je crois qu'il sort bientôt.
Mais beaucoup de gens me demandent alors c'était comment, et j'essaie de pas leur spoiler, évidemment, et de dire juste mon ressenti, ce que je vais faire là. Je pense que c'est une bonne porte de sortie pour le personnage.
D'accord.
Ce que n'était pas le...
Ce qui n'était pas le 4.
Ce qui n'était pas le 4. Et voilà, c'est à défaut d'être un grand Grundy, c'est au moins une bonne porte de sortie. Quoi.
Sur le 4, moi j'ai une théorie. Hein. Ma théorie, c'est que c'était vraiment censé être une porte de sortie avec un passage de relais à Shia LaBeouf. Et que les projections tests ont été tellement abominables qu'ils ont rajouté cette scène où en fait, il récupère son chapeau et il dit non. T'inquiète gamin, je garde.
Je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont pas gardé dès le début et tout ça?
Je sais pas. C'est une théorie, hein, j'ai aucun moyen de le confirmer.
Honnêtement, c'est pas un film génial de tout air, mais par contre, regarde bien avec la sortie du 5, la grande tentative de réévaluation du 4 qui va arriver.
Oh, bah ça a déjà commencé.
Tous les gens qui commencent à faire ah non, mais c'est le chef-d'œuvre caché. Non, arrêtez
mais
les mecs.
Ça a déjà commencé, c'est un journaliste, c'est un américain, je crois, qui a détesté le 5 à Cannes et qui s'est lancé dans un article pour réhabiliter 4 en disant moi de toute façon j'ai toujours aimé le 4. Voilà.
Ah oui, non, mais bien sûr. Bah, et tu sais quoi, il a 20 ans, il est peut-être nostalgique de cette époque-là.
On sait pas. Hein.
Enfin, il a pas 20 ans, il a 15 ans.
Non, il a pas 20 ans, 4.
15 ans, je sais pas. Enfin, je sais pas, j'essaie d'oublier.
Non, je préfère plus y penser.
Mais il y a des bonnes scènes hein, dedans. Et le de-age fonctionne mieux que... J'ai vu un film avec un de-age très bizarre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Monsieur Pantouflard? Monsieur Potiflard?
Ça me dit rien du tout.
Attends, bouge pas. Je cherche... Là, on est en live et on peut du coup chercher... Je cherche Christian Clavier. Ça, écoute, les connus, on peut dire qu'on les a vus. Christian Clavier.
2008, Indiana Jones 4.
Poutifar, Monsieur Poutifar. Ça s'appelle Les Vengeances de Maître Poutifar.
Attends, c'est celui avec Christian Clavier déguisé en Mario ?
Exactement, c'est il y a celui-là. Deux scènes où il est déguisé en Mario.
Mais c'est vraiment Mario ou c'est juste un wink assumé ?
C'est juste un wink pas assumé.
D'accord.
Mais clairement, c'est Mario et genre, il se fait passer pour un espagnol, enfin pour un italien, il parlerait pour cœur d'espagnol, c'est ridicule. Et je l'ai vu, je peux vous rassurer. Il sort, je crois qu'il sort presque le même jour qu'Indiana Jones.
Je suis rassuré, ça, donc, tu l'as vu.
Ah bah oui, bah écoute, le cinéma avance. Et alors, c'est pas ouf, mais par contre, il y a une tentative de de-age de Christian Clavier. Et alors, je peux te dire qu'elle est basée sur deux choses de technique haute résolution, à savoir le maquillage et une perruque. C'est tout.
Bah écoute, la technologie évolue. Et
c'est quoi, ça change.
C'est bien que les comédies avec Christian Clavier suivent le mouvement.
Et puis, il y a Isabelle Nanty aussi qui est un peu le même... qui a un peu la même chose. Et elle joue la mère de Christian Clavier, alors que je pense qu'elle est plus jeune.
Ah oui, c'est sûr qu'Isabelle Nanty est plus jeune que Christian Clavier, oui.
Mais bon, Isabelle Nanty, on la prend toujours pour jouer les mamans âgées. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Quoi.
Ouais.
Mais est-ce que je peux te le recommander ou pas ?
Non, je ne te permets pas.
Écoute, il y a des gens qui n'ont pas aimé le film Mario, et ben eux, je leur recommande vraiment notre petit flard, si vous voulez. C'était pas ouf. Benji,
oui.
je sais que ton temps est précieux pendant ce séjour, mais on a quand même pris le temps de jouer à Street Fighter.
On a pris le temps de jouer à Street Fighter 6, et mine de rien, pour le podcast, c'est un peu symbolique parce que notre premier épisode était sur Street Fighter 5.
C'est vrai.
Et donc, mine de rien...
Je pense qu'on pourra faire un épisode entier sur Street Fighter, si tu veux.
On pourrait... Est-ce qu'on arriverait à refaire un épisode entier sur Street Fighter ? Je sais
comme
pas.
Comme à l'ancienne, genre un épisode entier sur un sujet.
Sur un seul sujet, ouais.
Parce que tu sais quoi ? Plus on est YOLO dans les épisodes et qu'on se laisse aller à nos méditations, à nos pensées et tout... Et bien, plus les gens préfèrent.
Mais oui, effectivement, t'as raison. Parce que, de toute façon, quand on prend un mois entre deux épisodes, c'est sûr qu'on a eu le temps de voir plein de films, on a eu le temps de jouer à des jeux, il y a eu des trucs qui sont sortis. Surtout que là, en matière de sortie de jeux vidéo, là, c'est un peu n'importe quoi, entre Zelda et Street 6, Final 16 bientôt, Diablo 4. Alors, je crois que ni toi ni moi ne sommes des joueurs de Diablo, par contre.
J'ai Diablo 4.
Mais tu y joues ?
Non, parce que j'ai reçu un autre jeu que je peux pas citer.
Ah, ouais. T'as reçu un autre jeu que tu peux pas citer. Mais sinon, tu jouerais à Diablo 4 ?
Oui,
c'est
bien sûr.
Cam, ouais.
Alors, j'ai fini 100% Diablo 1 à l'époque.
D'accord.
Ouais.
Ouais, moi, tu vois, je n'ai jamais accroché.
Sur mon... Était-ce un Pentium à l'époque ?
C'était certainement un Pentium.
Ou un 486 peut-être ?
Oh non, ça devait être un Pentium déjà,
je pense. Vrai ?
Ouais, ouais. Mais peut-être même limite un Pentium 2.
Ah non, pas possible.
Non, Pentium 1.
Non. J'ai eu
trop évolué le Pentium 2.
Non, je pense que c'était un 486 parce que je me traînais. Et j'ai joué à Diablo 1. Diablo 2 m'a ennuyé parce que déjà, tu sais, il y avait trop de trucs. Et en fait... Diablo, dès qu'il y a trop de lore, ça m'ennuie en fait. Mmh. J'ai besoin de juste avancer, me dire « Ah, il avance dans des donjons » et tout ça. J'ai besoin d'un vrai sentiment de donjon, d'exploration et tout.
Moi, je me suis rendu compte que la seule licence Blizzard qui me parlait, en fait, c'était Warcraft et que les autres ne m'intéressaient pas.
Et c'est un jeu que je streamerai pas quand j'y joue parce qu'en plus, je sais pas si t'as vu, mais Activision, ils ont pas l'air d'être les mecs les plus sympas du cosmos. Là. Enfin, le patron...
Le patron d'Activision,
ouais.
Bobby,
eh ben écoute, tu sais quoi ?
Ah bah Bobby, écoute, je veux pas dire du mal d'un compatriote, mais c'est un connard.
Il est français ?
Mais non.
Ah, il est américain, d'accord, ok.
c'est la blague, Daniel.
Oui,
c'est la blague, c'est un compatriote.
C'est vrai. Oui, mais attends, il y a beaucoup de cons.
Oui,
tu récupères quand même 200 millions de personnes dont pas mal de connards quand même.
300 millions d'habitants.
300 millions. Pardon, putain, il a appris les chiffres.
Mais j'espère qu'il n'y a pas 300 millions de connards quand même, parce que sinon il y aura 300 millions et 1.
Oui, c'est vrai.
Je serai ce 1. Je serai un connard aussi.
Et tu sais quoi ? Et en plus, c'est mal réparti sur le territoire, les connards.
Non, je pense que c'est réparti relativement partout. Hein. Il y en a sur tout le territoire.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'à New York, ils sont moins visibles.
À New York, dans la ville de New York, ils sont moins visibles. Mais tout autour de la ville,
bien sûr.
Tu sais, c'est comme quand on dit que la Californie est un état progressiste.
Non,
la Californie est un état...
C'est qu'ils ne sont pas allés dans les vignobles.
Voilà, la Californie est un état avec des grosses villes dans laquelle habitent des gens qui sont plutôt progressistes. Mais alors, dès que tu sors des grandes villes, la Californie, c'est tout plein de Trumpers comme partout.
J'ai un pote il a profité de son voyage en Californie pour aller dans les vignobles et tout ça. Et il m'a dit, je ne pense pas qu'il faut à gauche.
Oui, ouais.
Pas à gauche, on s'entend.
On voit la gauche américaine, voilà.
Il m'a dit, on a fait des feux, on a fait des feux le soir. Il m'a dit, c'était un peu inquiétant. Écoute, ouais, non, Street, plutôt satisfait quand même. Hein.
Ah, j'ai vraiment trouvé ça très satisfaisant.
Je joue au World Tour là en ce moment et je m'amuse bien. Et
moi, j'ai uniquement joué online en fait. Le World Tour, je sais pas si je vais y jouer.
Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'vraiment, ils ont mis la dose de contenu et je serais curieux de réécouter notre premier épisode.
Pour savoir ce qu'on en disait.
Surtout, on ne devait pas être vraiment très posé en termes de voix, en termes de...
Ah oui, non, je pense que c'est inécoutable de nos jours.
Je pense que, ouais, je recommande pas commencer tout de suite par la fin.
C'est pas tellement sur le fond, parce qu'on raconte toujours autant de la merde, mais je pense que vraiment sur la forme, ça devait vraiment pas être joli.
Ouais, bon après, tu sais, on dit ça, on est là en train d'enregistrer, tout malade.
On est tous les deux malades, assis par terre dans la chambre de ton fils. Bon voilà, on est dans les conditions idéales.
Ouais, voilà, il n'y a pas de clim.
C'est vrai qu'il fait chaud.
Il fait chaud.
Mais non, sur Street 6, vraiment, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est déjà l'ouverture à un plus large public, ne serait-ce que par l'ajout du mode de contrôle moderne, dont toi, tu es assez fan, si j'ai bien suivi.
Oui, en fait, j'y suis assez fan. Tu sais, pour une raison simple, c'est que ça m'a permis de jouer avec des persos que je ne pouvais pas jouer, comme Zangief, qui joue Zangief. Et là, tout d'un coup, Zangief, c'est devenu mon main, quoi. Je suis fan de Zangief. Il me reste encore beaucoup à explorer.
Ouais, bien sûr. Mais le mode de contrôle moderne, et c'est plutôt bien fait, puisque quand tu utilises le mode de contrôle moderne, tu tapes moins fort que quelqu'un qui va prendre le mode de contrôle classique, histoire d'équilibrer un peu. Parce que c'est sûr que quand tu fais un 3-6 en appuyant sur un bouton, t'es un peu avantagé si tu tapes aussi fort que quelqu'un qui est obligé de faire toutes les commandes. Donc ils ont bien géré, je trouve. Moi, je maîtrise pas encore du tout toutes les nouvelles, les nouvelles techniques, donc tout ce qui est drive rush, drive bidule, drive machin, mais je vais essayer de m'y mettre. Mais je trouve que c'est
Drive my car, non.
C'est des mécaniques qui, je trouve, sont un peu plus faciles d'accès que ce qui avait été introduit. Alors, la Focus Attack dans le 4 et puis tout ce qui était le V-System dans le 5, qui, pour le coup, était vraiment, rendait le truc vraiment compliqué au final. Alors que là, je trouve que c'est vraiment une bonne approche qui a l'air de vraiment favoriser l'attaque.
Oui, c'est un jeu super offensif.
C'est un jeu super offensif, mais ce qui est aussi bien, c'est que...
Les mécaniques de contre sont assez simples.
T'as des mécaniques de contre qui font que même en défense, en fait, si t'es bloqué dans le coin par un mec qui déroule son combo, eh ben, tu peux t'en tirer. Alors que dans le 5, parfois, c'était chiant. T'étais bloqué dans le coin, le mec, il déroulait son combo et si tu faisais quoi que ce soit, bah, tu commençais à te faire enchaîner. Alors que là, non, il y a vraiment des trucs intéressants. Donc, c'est un jeu qui, je pense, au fur et à mesure que les joueurs vont le découvrir et vont le disséquer, va vraiment donner son plein potentiel et c'est, je pense qu'on va, on va voir des trucs vraiment très intéressants. Donc je suis assez emballé pour l'instant, même si le mode World Tour c'est pas forcément ma cas, mais s'il y a des gens qui veulent faire un mode solo
et c'est joli et jouable sur ton Steam Deck,
et c'est très jouable sur le Steam Deck, ouais. Le Steam Deck, alors faut pas foutre en ultra le jeu, hein, évidemment, mais de toute façon sur un petit écran comme ça, la différence elle est pas évidente. Tu mets les détails en low et puis t'as 60 fps, et puis voilà, c'est suffisamment joli et ça tourne. Et ouais, non, c'est complètement jouable sur un Steam Deck. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai demandé.
Même si t'as pas 6 boutons en façade.
Ah, même si t'as pas 6 boutons en façade. Mais après, 6 boutons en façade, il n'y a aucune manette de base qui les a. Il faut acheter une manette différente. Et puis, le Steam Deck, du coup, bah, je pourrais le docker et brancher mon sticker 4 dessus. Donc,
c'est vrai.
C'est pas du tout un souci.
Ah, ça peut servir de PC d'appoint.
Ah oui, bah, le Steam Deck, si tu le dock, tu peux brancher tout ce que
comme
tu veux.
Comme une Switch,
dessus.
Quoi.
Alors, comme une Switch, sauf qu'une Switch, si tu branches un clavier et une souris, tu peux pas t'en servir pour lancer un traitement de texte.
C'est sûr.
Et le Steam Deck, tu peux.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais,
si tu veux. Mais bon, en même temps, tu vas pas écarrer épais sur ton Steam Deck.
Non, bien sûr, mais le Steam Deck, c'est vraiment devenu mon PC de jeu, vu que mon PC D'accord. de jeu, il est moins puissant à l'heure actuelle que mon Steam Deck. Parce que à cause du Covid et des prix des composants, en fait, je ne l'ai jamais mis à jour, mon PC de jeu. Puis parce que le prix des cartes graphiques est débile, quoi qu'il arrive. Et que si je dois mettre à jour mon PC de jeu, ça va me coûter dans les 1500 balles minimum, tu vois. Alors que là, avec un Steam Deck, bon, c'est sûr, ce n'est pas la machine la plus puissante de l'univers, mais ça fait tourner Street 6. C'est tout ce que je demande. Et ça me permet de streamer la PS5 sans acheter le truc de Sony Q qui va...
Alors, tu sais que moi, je fais partie un peu du public qui s'intéresse un peu à ça parce que...
Mais je peux comprendre, mais il faut voir à combien ils le sortent. Parce que
je pense qu'ils vont le sortir trop cher par rapport à ce que c'est.
J'ai peur qu'ils le sortent à plus de 150 balles. À mon avis, ça ne vaudra pas le coup. Mais c'est sûr que monsieur tout le monde qui n'a pas un Steam Deck ne sait pas forcément que tu peux le faire avec un Steam Deck, mais tu peux aussi le faire avec ton téléphone, ça. Et du coup, Sony et leur compétition, c'est eux-mêmes avec leur app de Remote Play sur téléphone. Et les trucs pour attacher une DualSense à ton téléphone à 15 balles. Ouais. C'est ça la concurrence de leur machine, en fait.
Ça serait intéressant à voir. Hein, parce
mais
que...
je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut faire ça, qu'on peut streamer la PS5 sur un téléphone.
Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens que je ne pensais. Hein. C'est-à-dire,
qu'ils savent.
Il y a plein de gens qui m'en parlent et tout, qui me disent d'accord. Mais tu sais que tu peux faire ça. Je dis bah oui, je sais que je peux faire ça. C'est juste que mon téléphone n'y suit pas.
Mais... Non, mais ton téléphone, il va suivre. Hein. Je pense. Hein.
Écoute, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas.
Tu sais, ça ne demande pas grand-chose, hein, le streaming.
J'ai joué à FF14 dans le lit, mais en même temps. Avec un Steam Deck, tu peux jouer FF14 ouais, tourne quoi.
En natif. Mais le plus gros du boulot, il est fait par la console. Donc derrière, ton téléphone, il se contente juste de recevoir le flux, en fait.
Ouais.
Donc si ton téléphone, il peut streamer un film, je pense qu'il peut streamer...
Tu sais quoi, on sort de la salle, là, et quand même, ces lunettes 3D, là, j'ai 2h30 de lunettes 3D.
Ouais.
C'est...
Ouais,
je me dis, comment j'ai fait pour voir Avatar ? Ou Avatar 2, là, il durait 3 heures. Et
Avatar 2, c'était le dernier film que j'avais vu en 3D.
Ah, tu sais que j'en ai vu un avant-hier.
Ouais.
Puisque je suis allé voir... Alors, j'ai vu 22 films à Cannes, mais j'en ai vu quelques-uns en rattrapage puisque je suis pas resté jusqu'au bout.
Ouais.
Et donc j'ai vu quelques films que j'ai loupés, par exemple, j'en ai loupé 2-3 et donc du coup, par exemple, je vais voir le Gondry demain, par exemple.
Du coup, t'as vu Jeanne Dubarry en 3D ?
Non. Et j'ai vu un film qui s'appelle Anselm. C'est un documentaire sur l'artiste Anselm Kiefer, réalisé par Wim Wenders. Et tu D'accord. sais quoi ? Au moins cette 3D là, elle va rester dans l'histoire de la pop culture.
Ah, c'était en 3D, d'accord.
Elle va rester dans l'histoire de la pop culture.
Je vois à quoi tu fais référence.
Mais honnêtement, en fait, la 3D, quand c'est pour représenter des conneries qui explosent à l'écran, de l'eau qui n'existe pas, tu vois, genre, tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors que si c'est pour représenter là, un sculpteur, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un 3D pour représenter un atelier de sculpture ?
Ouais.
Et en fait, je trouve ça super intéressant. Et alors après, le documentaire, est-ce qu'il est... Il est un peu audacieux. En plus, il est en filigrane. C'est quand même un film qui fait l'autocritique quand même de l'Allemagne et de son rôle terrifiant pendant la Seconde Guerre mondiale et de ce que c'est que la conscience d'être allemand avec cet héritage-là. Enfin voilà, c'est des gens qui sont nés. Le Wim Wenders et Anselm Kiefer sont tous les deux nés en 1945, juste au moment où l'Allemagne a abdiqué. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Et en plus, c'est en 3D. Donc c'est vraiment une grosse portée. Peut-être que je devrais parler des films que j'ai vus à Cannes, les films importants.
Tu sais, déjà, je suis épaté parce qu'on est passé de Transformers à Wim Wenders en l'espace de 30 minutes.
Mais tu sais quoi, on est le podcast de tous les podcasts.
C'est vrai. En passant par Medellin au milieu quand même. Donc, oui,
et,
voilà.
Il nous en reste encore. Oh là là.
C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Spider-Verse.
On n'a pas parlé de Spider-Verse. Mais écoute, t'en parleras. Garde Spider-Verse. Je veux juste dire que j'ai un coup de foudre pour un film qui s'appelle Le règne animal, qui est réalisé par le mec qui avait fait Les combattants il y a quelques années.
D'accord.
Il n'avait pas fait de film depuis 5-6 ans. Et Les combattants, qui était presque une comédie aux entournures de presque une comédie, donc j'avais classé dans les comédies. Et Le règne animal, c'est, je pense, la meilleure adaptation des X-Men que j'ai vue ever au cinéma.
D'accord.
Avec Romain Duris. Et c'est Romain Duris, c'est son fils qui devient au fur et à mesure un mutant, en fait.
Ah ouais.
Et c'est passionnant, en fait. C'est vraiment... C'est beau comme Les enfants loups, en fait, de Osoda.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment... Ouais, c'est super poignant et tout. J'ai complètement adhéré à ça. J'ai vu un film qui s'appelle Vincent doit mourir, qui est un premier film, et c'est avec un mec qui est Karim Leclou.
C'est la suite de Roméo doit mourir ?
Non, pas loin. Mais en fait, c'est un mec qui est dans un bureau, mais il fait une vanne à la con sur un stagiaire, mais rien du tout. Puis tout à coup, là, l'image d'après, il y a le stagiaire qui arrive dans son bureau, il le regarde avec les yeux vides. Tout à coup, c'est la première scène. Il prend son PC, qui est un PC portable, et il lui écrase sur la gueule, mais avec toutes ses forces, quoi, avec la volonté de le tuer. Et on lui fait, oh, monsieur, vous n'allez pas porter plainte, hein, ça va casser un peu l'ambiance dans la boîte.
Ah oui.
Et donc, il porte pas plainte. Et le lendemain, tout va bien. Et genre, il y a quand même des cicatrices, il a des pansements et tout. Et là, il y a le comptable qui est à son bureau. Et il parle. Et tout d'un coup, le comptable, les yeux aussi, se tombent dans le vide. Et il devient fou. Et il prend un stylo et il commence à lui transpercer le bras. Mais avec lui, genre, je vais te trancher la main au bout d'un moment, tu vois, ce genre.
Putain, mais c'est quoi ce film?
Et en fait, le mec découvre que tout le monde veut le tuer.
D'accord.
S'il y a eye contact, les gens veulent tuer.
Et j'aime bien l'idée.
Et c'est d'une énorme violence. Et je te dis juste, c'était que les deux histoires du début. On est dans les trois premières minutes. Hein. Mais genre, il rentre chez lui et tout d'un coup, il y a deux enfants qui le regardent.
D'accord.
Et les enfants veulent le tuer. Tu fais quoi? Non, c'est à se pisser de rire. Il y a dedans donc Karim Leclou et Vima Laponce.
Mais c'est drôle ou c'est...
C'est de l'humour très noir.
D'accord.
C'est de l'humour très, très noir, mais... C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année à Cannes.
Rappelle le titre.
Ça s'appelle Vincent doit mourir.
Vincent doit mourir, d'accord.
Qui est un titre facile à souvenir. Tu connais un Vincent ?
Oui.
Bah, tu sais qu'il doit mourir.
Apparemment.
Bah voilà, bah Vincent doit mourir. J'ai vu évidemment le Scorsese.
Ouais.
Bon, alors c'est du cinéma. Je confirme.
C'est vrai.
Mais c'est cinéma.
C'est bon, très bien.
Tu sais que c'est un livre que j'ai tellement recommandé dans.
Bah oui, que tu m'as offert d'ailleurs.
C'est vrai, je te l'ai offert.
Tu m'as offert. Je l'ai toujours pas lu, hein, parce que je suis horrible.
Le film adapté donc de David Grann, qui s'appelle La Note américaine en français.
Voilà.
Et c'est 3h30, mais alors je les ai pas vus passer.
C'est Killers of the Flower Moon en VO, c'est ça ?
Killers of Moonflower ?
Flower Moon, je crois.
Flower Moon, ouais. Qui est vraiment. C'est brillant, c'est vraiment brillant. C'est encore une fois Wider Scope America. Et mais en plus avec un truc très critique évidemment puisque ça parle aussi des Indiens d'Amérique et de leur exploitation. Et Caprio est super intéressant.
Tu recommandes de le voir en 4DX, j'imagine, comme tous les films de Scorsese.
Ouais. Je pense que l'adaptation 4DX va pas être ouf. Donc j'ai vu l'Indiana Jones évidemment. J'ai vu le Kore-eda, ouais, qui est vraiment super. Ouais, j'ai vu une vingtaine de films. Je peux te dire le pire film puisqu'on est dans After Eight.
Faut bien un moment.
Et c'est un film avec Sean Penn. C'est un film qui s'appelle Black Flies.
Ouais.
Donc c'est avec Sean Penn et c'est avec l'acteur qui jouait dans un film que t'aimes bien. C'est un truc avec une moto, la moto de qui déjà?
Ah.
Comment il s'appelait cet acteur?
L'acteur principal, de, ouais. C'est Ty Sheridan.
Voilà, c'est Ty Sheridan, merci. Je les confonds en fait. Donc c'est produit par Ty Sheridan et par Sean Penn.
Sheridan.
Mais j'ai dit Sheridan.
Je sais pas, je l'entendais Sheridan.
Sheridan. Non, c'est Ty Sheridan. Et donc c'est Brigham the Dead, donc un autre film de VC Cinema.
Ouais, avec Nick Cage.
Mais sauf que là, c'est des histoires d'ambulanciers à Brooklyn.
Ouais.
Et mec, Brooklyn est filmé comme si c'était une prison de Bangkok. C'est genre okay. tu vois pas la lumière du jour.
Donc filmé comme dans Pattaya de Frank Gastambide.
Ouais, un petit peu, mais alors ce qui est fou, c'est que genre...
Qui n'est pas du tout Bangkok, hein, c'est une autre ville.
Il est avec une nana et... Alors il y a une nana dans le film, c'est simple, on la voit toute nue pendant 20 minutes du film, on ne connaît pas son prénom. C'est genre, c'est vraiment, c'est male gaze the movie absolu. Hein,
mais est-ce qu'elle finit avec Frank Gastambide?
Non, alors, et du coup, alors, je t'explique. Donc, ça se passe à New York, donc à Brooklyn.
D'accord.
Et il est ambulancier, donc c'est le bas-fond de Brooklyn, mais les bas-fonds de Brooklyn. Brooklyn, c'est pas un super coin à bas-fond, en fait.
Bah non, Brooklyn, ça s'est gentrifié de ouf maintenant. Brooklyn, c'est là où il y a tous les hipsters, quoi. Brooklyn, c'est genre le 11e maintenant. C'est le 11e arrondissement de Paris pour les gens qui connaissent.
Bah ouais, il n'y a pas d'endroit vraiment catastrophique dans Brooklyn. Et donc, ce jeune ambulancier qui est Ty Sheridan...
Après, tu sais, si ça se trouve, il y a des coins de Brooklyn tout pourris qu'on connaît pas. Hein, et nous, on en reste à l'image d'Épinal, du truc de hipster.
Non, mais là, c'est genre, c'est filmé comme si c'était...
Comme si c'était la zone, quoi.
Ouais. Et il fait une alliance avec un ambulancier. Ils font équipe avec donc, qui est joué par l'ambulancier, il est joué par Sean Penn.
D'accord.
Et alors, il y a beaucoup de références religieuses, car je sais que t'aimes les films avec références religieuses.
Évidemment.
Il a un manteau avec des ailes.
Surtout les références subtiles.
Ouais, alors, ça, c'est très subtil. Alors, il a toujours la Vierge Marie dans sa chambre accrochée.
Ouais.
Il a un manteau avec des ailes, et à la fin, tu sais, quand il se sent enfin libre, il écarte les bras et on a l'impression qu'il a des ailes, tu vois, qu'il s'envole dans les airs.
Ah, mais ça, c'est Superman de Zack Snyder.
Attends, c'est pas la meilleure. Et tu sais comment il s'appelle, le héros, Ty Sheridan? Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Holly. Holly Cross.
Non, t'es pas sérieux, c'est pas
possible. Je te jure sur ma vie, le héros il s'appelle Holly Cross.
Ah putain.
Et c'est.
Ah mais ça c'est aussi bon que la famille Klett qui a été autorisée à appeler leur fille Lara, quoi.
Oui, oui.
C'est du même niveau.
Non mais je pense qu'en termes de blaze, on est au même niveau que.
Holly Cross, putain.
Que le méchant dans le cinquième élément, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Je baise. Non, ouais, vraiment, c'est le pire film. C'est un film passablement raciste.
Ouais.
C'est vraiment...
Je m'intéresse, hein, parce que les films racistes aussi, c'est un truc...
Oui, c'est vraiment ta cam.
On rappelle qu'à la base, After Eight est né d'un projet pour parler des films taxi.
Oui, c'est vrai.
Des films où le racisme fait partie de l'humour.
Oui, où l'humour est... Ah, c'est pas parce que c'est de l'humour. Voilà.
Bah, les films taxi qui sont jamais aussi drôles que quand ils sont super racistes, en fait.
Oui, c'est-à-dire, plus c'est nul, plus c'est formidable.
Voilà.
Mais là par contre, c'est un truc très inhérent. C'est que des toxicos.
D'accord.
Ils sont tous les victimes de drogue et tout ça sont tous noirs ou hispaniques.
Ouais.
Ou il y en a un russe, mais ils sont débrouillés pour trouver un russe noir pour bien marquer le coup.
Pourquoi pas?
Non, mais vraiment, genre, c'est vraiment. C'est...
Et donc ils sont sauvés par Holly Cross?
À chaque fois, ils sont sauvés par Holly Cross.
Ça tombe bien quand même.
Oh là, c'est d'une nullité, mon gars. Ça a l'air
subtil, c'est mon genre de film.
Ah non, c'est vraiment. C'est pas dur à chier, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est catastrophique. Donc ça, c'était peut-être mon pire film de Cannes.
Il a gagné combien de prix du coup?
Bah zéro. Enfin, il a été présenté. Non, mais. qu'est-ce que tu veux? Genre, je pense sur Letterboxd, la moyenne globale, ça doit être entre 1 et 1,5. Enfin, après, peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé, hein, j'en sais rien, mais... Jeanne Dubarry, je te recommande aussi pour toi.
En 4DX, pareil.
En 4DX... Oh putain, tu sais quoi? J'ai un pote qui m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais quoi? Tu verras jamais Versailles aussi mal réalisé. Et bah, il avait raison, c'était vraiment moche. Et puis non, sinon, il y avait quelques films intéressants. Il y avait Mars Express aussi, qui est un dessin animé d'OSF qui est vraiment super.
Ouais.
Et voilà, je t'ai fait en gros une petite sélection. Après, je pourrais peut-être en revenir encore dessus, mais voilà, il y avait un road movie marocain avec deux mecs un peu perdus dans la nuit qui essayent de planquer un cadavre. C'était plutôt drôle. Ça s'appelait L'Émeute. J'étais plutôt bon esprit.
D'accord.
Et voilà, bah après, t'as toujours des surprises. Hein. T'auras toujours des romances sur des troupes en Chine. Qui dure 2h30 et que tu vois, t'as envie que ça s'arrête. Tu dis, allez, faites-le, votre troupe, et arrêtez. Quoi.
Avant Spider-Verse, on a vu une bande-annonce pour un film japonais qui a l'air d'être exactement comme ça, en fait. Avec une histoire qui a l'air dépressive au possible.
Quel film? Love Again? Love Life. Love Life, oui. Ouais. Il sort mercredi.
Tu l'as vu ou
Alors non, il sort ce mercredi-là dans le cadre du festival Annaby, en fait.
D'accord, parce que la bande-annonce donne envie de se flinguer. Ça a l'air d'être vraiment déprimant.
Ouais, mais tu sais, c'est les bons sentiments.
Ouais.
Ouais, toi, t'es pas habitué aux bons sentiments. Toi, t'es,
non.
T'es Transformers boum boum et ça explose.
Moi, il faut que ça explose et qu'il y ait de la KDX, hein, sinon...
Moi, il faut qu'il y ait The Flash.
Ouais. C'est vrai que c'est différent.
Tu veux parler de Spider-Verse, vas-y.
Je vais parler rapidement de Spider-Verse, donc j'ai eu la chance de voir hier. Même si j'ai beaucoup aimé, je dois avouer que je crois que je préfère le premier, mais je peux pas reprocher au film un truc qui était impossible, c'était l'effet de surprise. Parce que le premier nous avait vraiment, vraiment pris par surprise. C'était incroyable, en fait, au niveau de la direction artistique, de tous les efforts qu'ils avaient faits. Et évidemment que là, ça allait pas être le même choc, même si il faut bien admettre qu'ils ont poussé tous les poutards à 11, que vraiment, c'est bourré d'idées de mise en scène. C'est super inventif, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien foutu. On s'attache vraiment aux personnages, ils ont vraiment une vraie histoire derrière. Alors, il y a le côté frustrant du fait que ça se termine sur un cliffhanger parce que c'est la partie 1. Et là, c'est un point commun avec Fast 10. Ils en ont pas beaucoup, les deux films, mais ils ont ça, c'est que ça s'arrête vraiment sur un cliffhanger net. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, même si, voilà, comme je te l'ai dit, j'étais pas aussi emballé qu'à la sortie du 1, parce que le 1, je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Celui-là, je l'ai vu, je suis très content de l'avoir vu et je vais juste attendre la suite maintenant. Mais si vous avez aimé le premier Spider-Verse, il y a vraiment aucune raison que vous aimiez pas le deuxième. Mais j'ai juste un petit bémol, c'est que c'est tellement fouillé, tellement travaillé, tellement bourré de détails dans tous les sens qu'en fait, c'est un film épuisant. C'est pendant 2h20, t'es vraiment... Les quelques moments de calme sont au début. Et une fois que la machine est lancée, le truc s'arrête vraiment jamais. Et encore, je dis au début, avant le titre, il y a quand même une séquence qui est assez balèze, qui bouge déjà beaucoup avec des personnages, notamment un des ennemis, un des vilains qui a un style tout à fait particulier. C'est un film qui est vraiment fatigant, en fait, parce qu'il te lâche jamais. Et ça peut être difficile. Et je pense que notamment pour des enfants un peu jeunes, ça doit être, ça doit être impossible à suivre.
Il y a des parents qui m'ont dit « Ouais, est-ce que je peux emmener mon fils et tout ?» Je leur dis « Avant 10 ans, j'irai pas, moi, en fait. »
Ouais, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui se passent que c'est difficile.
Et c'est pas un truc de... C'est pas de l'ordre de la violence ou parce que...
Ouais, pas du tout, ouais.
C'est vraiment un sort de... on t'en met plein la gueule, ouais. Et surtout, on te laisse pas respirer.
Exactement, ouais. C'est pour ça que c'est épuisant.
Et il n'y a pas de petite plage de respiration. Moi, en fait, je trouvais que le premier est super, quoi. C'est le premier film qui est vraiment extraordinaire.
Et le premier a un rythme moins effréné, ouais. En fait, je trouve.
Parce qu'il prend son temps. Et surtout, il y a un truc qu'on oublie, c'est que le premier, il nous raconte vraiment l'histoire de Spider-Man. Et il nous montre la mort d'un Spider-Man dès le début.
Ouais.
Tu vois, et déjà, ça pose en termes de dramaturgie, c'est assez fort. Je trouve que le Across, il est intéressant parce qu'il développe ce Spider-Gwen. Enfin, vraiment, il y a des choses intéressantes.
Il nous donne beaucoup de choses très intéressantes sur Spider-Gwen.
Il nous donne des super personnages. Spider-Punk est super.
Spider-Punk est super. Spider-Gwen est toujours super en même temps. Mm. Et puis même le Spider-Man indien est génial. Il y a vraiment des bonnes idées sur les univers parallèles, même si on en voit
tant
que ça.
Sans nous avoir donné trop.
Voilà.
C'est-à-dire, par contre, de ce point de vue-là, je me suis dit, merde, il est où mon... Il est où mon Spider-Man de la Toei? Il est où mon robot géant?
Mais à côté de ça, il y a quand même des bonnes surprises et il y a évidemment des tonnes d'easter eggs pour les fans. Il y en a un qui est au tout début, mais je ne vais quand même pas le dévoiler parce que c'était une belle surprise. Mais celui qui est hommage à... Enfin, c'est celui que seuls Lord et Miller ont pu mettre parce que, à cause de leurs antécédents. Mais globalement, ça reste de l'excellente cam. Quoi. Voilà. Je suis moins emballé qu'après le premier, mais c'était impossible d'être autant emballé parce que la surprise n'y est plus.
Mais surtout, le truc, c'est que avec cette histoire, il faut faire 2 heures. C'est un film qui va durer en tout.
Pas 5 heures au total.
5 heures au total. Est-ce que vraiment. Genre, il faut avoir un super final en tête. Quoi.
Et je trouve pas qu'il y ait de longueur particulière.
Non.
Parce que même si au début, le film prend son temps vraiment. Et qui t'introduit un méchant qui devient une vraie menace. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Comment le méchant, au début, passe de méchant un peu quelconque, un peu tocard, où tu comprends ses motivations, où tu te rends compte de vraiment, il y a une vraie... Tu vois, c'est l'inverse de ce qu'était Electro dans Amazing Spider-Man 2, quoi. Parce qu'autant Electro dans Amazing Spider-Man 2, à aucun moment tu comprends pourquoi il devient zinzin comme ça, autant là, il y a un vrai boulot sur... mentalement, comment le type évolue et comment il devient ce qu'il est.
Quand tu dis le type, quel type?
Le méchant de Spider-Man.
Ah oui, d'accord.
Je parle pas... Non. La tâche.
Ah ouais, okay, voilà. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est Miguel O'Hara, ouais, ou des ouais, gens ouais. Alors que.
Mais en même temps, Miguel O'Hara est présenté un petit peu. Enfin, ça pourrait être le méchant du 3, hein, je sais pas, hein, au final.
Il a un comportement qui.
Parce qu'il a un comportement qui est.
Il a un comportement comme ça, mais en même temps, Miguel O'Hara, il est. Quand Miguel O'Hara a été créé par Peter David en BD, je m'engage pas trop sur le film pour des raisons personnelles, je peux pas trop en parler. Mais par contre, sur le point de vue de la BD, Spider-Man 2099, quand il est créé, Peter David prend une décision, il dit bon, on a Peter Parker, on a juste un Spider-Man à cette époque-là, et on va en faire un deuxième, et il dit ben, ce qu'on va faire, c'est que Miguel O'Hara va être exactement l'opposé de Peter Parker. C'est-à-dire que Peter Parker, il est drôle, là, il va pas être très drôle, il parle tout le temps, Spider-Man 2099, il parle pas trop, il est plus taciturne. Le seul truc en commun qu'ils ont, c'est la science. Ils sont balèzes en science, mais c'est tout, quoi.
Mais là, le Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2099 du film, a quand même des côtés d'antagoniste, parce qu'il a un côté jusqu'au boutiste.
Parce qu'il est prêt à se débarrasser de Miles Morales, quoi. Mais en tout cas, je trouve que j'aime bien l'idée que Miles Morales est un personnage qui grandit. Et ça, c'est un truc qu'ils peuvent pas vraiment faire avec Peter Parker, notre Peter Parker. Notre Peter Parker, il est coincé un peu dans un statu quo, alors que Miles Morales, ils ont pas moins cet engagement de le garder tel quel dans 20 ans, 30 ans. Peut-être dans 30 ans, Miles Morales, il aura une femme et des enfants, tu sais pas.
Et c'est très bien.
Et même le Peter Parker qu'il montre, tu vois, c'est même pas forcément le nôtre, quoi, tu vois. C'est même pas le 616, quoi.
Et pour rester sur Spider-Man, je suis passé à la boutique de comics tout à l'heure et j'ai regardé la série actuelle Amazing Spider-Man et... Putain, c'est nul.
Ah, c'est compliqué.
Le run de Zeb Wells, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait, là.
C'est compliqué parce qu'en fait, j'aime bien Zeb Wells, j'aime bien le début.
Ouais.
Franchement, le truc avec Tombstone qui se... Parce qu'il y a tout un truc avec Tombstone et sa fille qui date là. Enfin bref, il y a un truc très intimiste en fait. Et j'aime bien comme personnage Tombstone. Et du coup, il s'est refait refaire les chicots. Et au bout d'un moment, il se dit bon, il faut que je reprenne du service. Et donc, il slim le chicot à nouveau. Non, et tout ça, le début du run est super.
Mais là où ça en est à l'heure actuelle, là, j'ai eu le 26 ce matin, j'ai feuilleté le 26.
Et là, je me demande si ça n'a pas été. C'est une commande éditoriale, quoi.
Ouais.
Parce que Dabaja, ça ne ressemble pas trop à du Zeb Wells. Ensuite, je trouve que Romita Junior est vraiment pas dans le coup.
Ouais.
Il y a vraiment un vrai problème. Il y a des mèmes, hein, maintenant qui courent sur lui. Genre, est-ce que c'est. Parce qu'en plus, il y a un personnage important qui meurt dans le 26.
Et c'est vraiment pas fait de manière subtile.
Et le truc, c'est dire, est-ce qu'ils ont vraiment une tête à regarder quelqu'un en train de mourir, personnage? C'est pas très très bien dessiné. Peut-être qu'il lui aurait fallu plus de temps.
Et il y a non seulement elle qui meurt, mais il y a aussi deux personnages mineurs qui disparaissent.
Oui.
Genre, hop, pour un effet dramatique.
Ouais. Non.
C'est vraiment de. Ouais, non, je comprends pas trop les choix qui ont été faits là sur Spider-Man.
Écoute, moi, je lui laissais sa chance. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait. Parce qu'en fait, depuis le relaunch par Zeb Wells, qui était pas mal, donc, on avait un truc, c'était Spider-Man a fait quelque chose.
Ouais.
Il a fait une connerie et il s'en mord les doigts et on retrouve l'histoire un an après. Et on voit Peter Parker et on voit Mary Jane qui est avec un autre mec, qui est avec des enfants.
Il faut dire que Amazing est reparti du numéro 1, qu'un truc qui n'était jamais arrivé.
Si, bien sûr, des tonnes de fois. Mais par contre, ils remettent la numérotation régulièrement à.
Moi, il me semblait que Amazing, justement, en fait, on était arrivé à 700, il y avait Superior, et ensuite ils étaient repartis sur.
Non, ils ont fait le 800, ils ont fait le 900. La première fois qu'ils l'ont rebooté, c'était pour John Byrne, mais dans les années 90.
D'accord.
Ensuite, ils l'ont rebooté pour. N'importe quel auteur qui est venu, en fait. Dès qu'il y a un grand auteur, c'est bon, il reboot. Et puis, dès qu'il y a l'occasion qui se présente, c'est-à-dire un numéro anniversaire, ils font paf. Ah, c'est le numéro 1000 qui arrive. Je te le dis comme ça, ça va exactement se passer comme ça. Et ils ont fait ça pour Superman.
D'accord.
Maintenant, ils ont une tradition maintenant de reprendre les numérotations au fur et à mesure. Ce n'est qu'il y a du stunt commercial.
D'accord.
Mais du coup, le relaunch de Zeb Wells, ouais, ça se passait pas trop, mal. J'aimais bien les Zeb Wells, ça fait plusieurs de mes histoires préférées de Spider-Man. Mmh. Il en a fait une avec le lézard. Et le lézard qui est un peu, genre, qui, sa force primitive, qui le pousse à bouffer femme et enfant, tu vois, enfin, un truc super dark et tout.
Ah ouais.
Ouais, non, mais genre, c'est pas exactement ce qui se passe, mais voilà, c'est une histoire très très dark. Et donc, j'aimais bien Zeb Wells. Et là, pour son histoire de machin totem, il reprend un personnage qu'il avait introduit il y a 8 ans ou 9 ans, dont tout le monde s'en rien à foutre. C'est très compliqué, cette histoire. Par contre, tu sais que, on va nous dire, on fait pas assez de hate. Mais tu sais que Straczynski revient dans le monde Marvel. Il a pas écrit de comics Marvel depuis 10 ans ou 15 ans.
Et peut-être pour une bonne raison.
Parce que c'était pas bien.
J'ai jamais été un gros fan, en fait. Je reconnais des qualités à plein de trucs qu'il a écrit, mais j'ai jamais été un énorme fan, en fait.
Alors, je pense que c'est le meilleur auteur de Babylon 5, puisqu'il a créé Babylon 5.
Oui, voilà, ouais.
Mais alors, par contre, en comics.
Chez Marvel.
En comics, il a fait un comics qui nous expliquait ce qui arrivait juste avant, tu sais, le Killing Joke. tu sais, évidemment, Barbara se fait flinguer. Bah, il a fait le comics. Qu'est-ce qui se passe la nuit d'avant? On n'avait pas besoin de ça, mon gars.
Pas besoin de ça, quoi.
Il a fait les comics avec les enfants de Norman et de Gwen Stacy.
Ah, oh, putain, c'était horrible, ça.
C'était lui.
C'était horrible.
C'était lui, mon gars.
J'avais oublié.
Il a tellement de cadavres dans le placard, mais c'est genre, à chaque fois, Superman qui est déprimé et qui marche à travers les États-Unis, c'est lui.
Non, mais je veux qu'on revienne sur les enfants de Norman et Gwen Stacy, donc c'est quand même dans un...
Ils ont été effacés.
Je comprends toujours pas cette espèce de timeline dans laquelle Gwen Stacy, en fait, a eu des enfants avec Norman Osborn.
Et que les enfants ont vieilli, Marvagi, et que...
Et qu'ils ont vieilli, voilà, parce que, évidemment, Peter Parker, lui, il vieillit très peu, au final, depuis 70 ans qu'il existe, mais non, mais c'est... Oh, c'était tellement pas bien. Et honnêtement, rien que de redire là, Norman Osborn que des enfants avec Gwen Stacy, j'arrive toujours pas à y croire. C'était vraiment une idée de merde.
Le truc Straczynski, c'est qu'il a parfois des bons concepts et ça devient des trucs horribles. Alors les Spider Totem, c'est peut-être un peu grâce à ça qu'on a Spider-Verse.
Qu'est-ce que j'aime pas les Spider Totem.
Mais c'est grâce à ça qu'on a Spider-Verse. Hein.
Ouais, mais je trouve ça vraiment... En même temps, c'est Spider-Verse en BD.
Oui.
J'aimais pas.
Hein. Ah, je trouve ça super.
Moi, Spider-Guédon, tout ça, je trouve ça...
Spider-Verse. Putain, le premier Spider-Verse dessiné par Olivier Coabel, je trouve ça magnifique.
Non, mais c'est beau, mais c'est l'histoire qui m'intéresse pas, moi. Parce que l'histoire, en gros, c'est Morlun qui va d'une dimension à une dimension, qui bute le Spider-Man et basta. J'ai trouvé ça nul.
C'est une telle super idée pour faire revenir Captain Universe.
Non, Spider-Man. Mais bien sûr, mais le truc, c'est que le concept sur le papier, je t'ai dit, j'étais OK, et je commençais à le lire et je me rends compte que c'est tout le temps pareil, quoi.
Donc Straz revient, mais ils le font venir sur Captain America. Et alors, tu sais quoi?
Oula.
C'est pas le pire choix pour Captain America. Parce que quand tu lisais son Spider-Man, souviens-toi, le fameux numéro où Spider-Man révèle son identité dans Civil War, c'est Straczynski aussi.
D'accord.
Et tu te souviens, il y a ce Captain America qui arrive pour lui faire un super speech. Mon garçon, faut assumer qui t'es, gna 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 gna. Il lui fait des speeches et en fait, il fait des très bons speeches de Captain America.
C'était pas le pire moment de Civil War, faut dire ce qu'il est.
Non, mais il fait des très bons speeches de Captain America. Peut-être que c'est ça sa vie.
Alors que Reed Richards, en proto-fasciste qui enferme les gens dans la zone négative, ça c'était le pire moment de Civil War.
Ah putain, c'était dur. Mais tu sais qu'ils ont fait un Civil War 2 et.
C'était nul Civil War 2.
Là par contre, Marvel, ils font genre comme si ça n'existait. Ça n'a jamais existé.
Ah ouais, non, Civil War 2, c'était vraiment bidon.
C'était Captain Marvel qui jouait le rôle de la fasciste.
Oui.
Ça aussi, ils l'ont oublié. Il y a des trucs. Mais ça, c'est. Faut savoir un truc dans la BD, puisqu'on s'autorise un peu à parler comics.
Et le pire, c'est que la raison pour laquelle Civil War 2 démarre est vraiment bidon.
Oui. Mais il faut savoir un truc. Donc, dans la BD, dans les comics, quand les choses sont trop nulles, il y a un truc qui s'appelle de l'ordre de la conscience collective qui fait. C'est comme si tout le monde se réunissait, tout le monde était linké télépathiquement et on se disait tous en même temps.
Ça n'a pas existé.
Ça n'a pas existé.
Et dans 30 ans, il y a Grant Morrison qui fera un comics en rappelant que ça existait, tu verras.
Et tu sais quoi? Ouais, il y a toujours un mec qui est ardu et qui
et
dit
qui
un
twist.
Les enfants de Gwen Stacy ont existé.
Voilà.
Mais tu sais quoi?
Et qui arrivera à rendre ça bien, incompréhensible pour quasiment tout le monde. Mais
il y a eu, par exemple, Jason Aaron a utilisé le pire run de l'histoire des X-Men. C'est celui où on découvre que Nightcrawler est en fils le fils de Satan. C'est le fils de Mephisto, enfin le fils de...
Avec Mystique ou...
Avec Mystique.
D'accord, ouais.
Genre, et c'est son fils, et qu'il faut des portails, et qu'en fait, Satan, il couche avec des terriennes pour créer des portails. Et la logique, c'est, et si t'as besoin de coucher avec des terriennes pour créer des portails, ça veut dire que tu peux déjà venir. Pourquoi t'as besoin de portails? Non, mais c'était stupide. Et du coup, ça s'appelait The Draco. Et c'est un des pires arcs de l'histoire des X-Men, avec celui où Angel devient une espèce de fasciste mélinariste soigneur. Et en fait, il répand son sang sur les gens pour que les soigner. Enfin, c'est des trucs super bizarres. Tu te demandes qui avait des idées pareilles à ce moment-là. Vraiment, c'était une sacrée époque quand même. Sortait n'importe. Et en plus, il y avait des films en même temps. Donc, tu vois. C'est genre les gens
découvraient les films et se disaient « Oh, je vais lire les BD !» Et tomber sur
qui
ça.
Qui ont vu les X-Men et qui ont vu Jackman et tout. Ils se disaient « Hey, Nightcrawler, on va aller voir ce qui se passe. » Et là, tout d'un coup, pourquoi il couche avec le diable? Non, mais vraiment, les sacré monde des comics. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les sujets, là, je crois, j'ai l'impression?
Écoute, on a parlé...
Tous, non.
Probablement pas tout. On n'a pas du tout parlé de Zelda.
On n'a pas parlé de Zelda, c'est vrai.
On n'a pas du tout parlé de Zelda.
Ouais, mais en fait, j'en ai beaucoup parlé dans Soumimasen Turbo, je crois.
Bah, du coup, j'inviterais peut-être les gens à se pencher sur Soumimasen Turbo pour t'entendre en parler, parce que moi, j'avoue, j'y ai joué 6 heures, donc j'ai pas encore vraiment beaucoup de recul. Juste que je m'amuse beaucoup, en fait, et que je trouve limite celui-ci encore plus mélancolique que le précédent. Parce que le précédent, même s'il y avait toujours ce sentiment de solitude, de monde détruit, de monde dévasté, de perte de tout espoir, le truc qui est incroyable avec celui-là, et ça on l'apprend dès la cinématique d'ouverture, genre avant même qu'on commence à manipuler Link, donc ça ne sera pas un spoiler énorme, on se rend compte que tout ce que tu fais dans le premier ne servit à rien. Et c'est extraordinaire en fait, la manière dont c'est fait.
Mais en fait, c'est bizarre parce que tu as l'impression de revoir un endroit que tu connais, mais en fait, où il s'est passé plein de trucs entre-temps. C'est très bizarre.
Et voilà, et je suis en train de redécouvrir Hyrule. Et tu vois...
Non, en fait, c'est Paris que tu voulais dire. Tu voulais dire Paris.
Paris. Mais justement, et c'est ça, c'est très, très intéressant. Pour quelqu'un comme moi qui revient une fois par an à Paris, et j'ai l'impression de redécouvrir des endroits que je pensais connaître, mais qui en fait ont changé depuis. Et c'est exactement pareil dans Hyrule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez typique, par exemple, quand on quitte sa ville d'enfance et qu'on rend visite à ses parents, ou quand on quitte son pays d'enfance et qu'on revient pour rendre visite, mais à intervalles réguliers et de plus en plus espacés quand il y a une pandémie. Et on se rend compte que les choses sont toujours pareilles, mais un peu différentes. Et c'est exactement ce sentiment que je vis dans Hyrule. Et alors, c'est un truc qui avait été très, 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 très bien développé dans un court-métrage.
Pas dans Yakuza, parce que tous les ans, c'est le même.
Pas dans Yakuza. Encore que dans Yakuza, il y a des quartiers qui changent.
Il y a des quartiers qui changent et genre, ils enlèvent des pubs. Et tu fais, ah, il y a un truc, ouais.
C'est un court-métrage qui est sur Disney+, dans le programme Short Circuit. J'essaierai de retrouver le titre exact, mais il y a un court-métrage qui parle exactement de ça, en fait, où tu vois quelqu'un qui, je crois, juste rentre dans sa ville natale pour rendre visite à ses parents. Et au fur et à mesure, tu vois les trucs qui changent, les gens qui changent, les gens qui disparaissent. Et à la fin, c'est assez triste. Donc, c'est un truc qui m'a un peu bouleversé quand je l'ai vu, parce que ça m'a vraiment renvoyé à ma propre condition d'immigré, en fait. Parce que, voilà, je vis loin et que, du coup, ma famille et mes proches sont loin, que mes amis sont loin, même si j'ai des amis là-bas, mais c'est pas la même chose. Et c'est un peu ça. C'est pour ça que je crois que ce Zelda me touche encore plus que le premier.
Vous voulez savoir à quel point Benji a changé ? Je vais vous le dire. On mangeait avec son épouse tout à l'heure et elle m'a dit sa recette pour faire la fondue.
Alors, je t'ai prévenu que c'était une recette très très personnelle à elle et que j'essaye de me battre pour qu'on fasse la vraie recette, mais je pense qu'elle aimerait moins en fait.
Et tu peux dire exactement ce que c'est ?
Oh, bah, on peut dire, elle achète 4 sortes de fromages râpés différents.
États-Unis déjà. Donc.
Aux États-Unis, donc il y a du Monterey Jack, doit y avoir du cheddar à un moment quelque part. Daniel fait une grimace, je vous le dis, vous n'avez pas l'image. Elle les mélange tous ensemble, elle met de la crème fouettée et elle met dans un nécessaire à fondu et voilà.
Et c'est quoi déjà son truc pour que ça soit un peu plus dense ?
La crème fouettée.
La crème fouettée.
Voilà, c'est sa recette de la fondue à elle. Ça n'a rien à voir avec la fondue savoyarde, absolument rien.
Ouais, c'est dur hein, pour moi.
Le seul rapport, c'est que c'est du fromage fondu avec du pain, mais ça, au niveau goût, c'est vraiment rien à voir.
Écoute, au moins, elle ira dans le royaume des cieux, puisque elle a ramené la peluche préférée de mon fils.
Elle, voilà,
au moins du mois, mais si ce n'est de l'année, je ne sais pas.
Elle s'est pointée avec une peluche qui a été adoptée immédiatement.
Un petit dinosaure.
Ouais.
Et depuis, petit dinosaure, c'est son copain. Il l'appelle pour l'instant petit dinosaure.
J'ai hâte qu'il lui trouve un nom, quand même.
Et tu sais quoi, il adore un nouveau jeu vidéo, tiens, puisqu'on est update enfant.
Ah oui.
Il adore Katamari.
Ah, parce que la dernière fois, c'était Terrorism.
Ah oui, mais on a fait Terrorism ce matin et on a fait Katamari.
Katamari, ok.
C'est toujours. Terrorism est toujours très important.
Je comprends complètement comment un enfant de son âge pourrait adorer Katamari. Hein.
Et alors, du coup, c'est génial pour moi parce que on révise ensemble le vocabulaire russe. C'est-à-dire, regarde, il a attrapé une agrafeuse, il a attrapé un monsieur, il a attrapé une dame.
D'accord, tu fais tous les objets.
Je fais tous les objets, les animaux, les machins. Donc, quand tu absorbes les éléphants dans les eaux, bon, les éléphants, c'est déjà le fin.
Est-ce qu'il y a la langue russe sur le jeu ?
Non, mais il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de lecture, lecture dans Katamari.
C'est juste quand le roi te parle, quoi.
Ouais, non, mais il n'y a pas de. Genre, quand la boule, lui, il veut voir la boule qui roule. Et donc, du coup, la boule, quand elle va dans l'aquarium, il fait, oh, il y a des crabes, on attrape les crabes et tout. Et il est trop content et on fait. Quand il est avec moi, évidemment.
Quel concept, quand même.
Il le fait tout. Mais Katamari, c'est un jeu extraordinaire.
Et ils ont fait toute une série de jeux dessus. C'est ça qui est.
Mais alors, et je peux pas te jurer. C'est le dernier qui vient de sortir, donc sur PS5.
D'accord.
Switch, Xbox, enfin compagnie. Je peux pas te jurer que ça soit un nouveau jeu. C'est vraiment.
C'est peut-être le même, mais on n'est pas sûr.
C'est le même, et il y a marqué Reprogrammed, et je sais pas de quoi il est Reprogrammed. J'ai l'impression que c'est Wheel of Katamari All Over Again.
C'est peut-être un remake. Wheel of Katamari, c'est celui que j'avais, moi, sur PS2.
Ouais, PS2. Mais tu sais.
C'est pas le premier, on est d'accord. Hein.
Non, non, c'est le deuxième.
C'est vrai.
Je crois qu'il est pas si différent du premier. Enfin, du précédent. Mais
je crois que globalement, ils n'ont pas beaucoup bouleversé la formule.
Oui, oui, mais honnêtement, il y a un truc tellement de réjouissant avec Katamari. C'est vraiment, c'est super. Hein, c'est vraiment la musique, elle est folle. Et puis à chaque niveau, c'est une espèce de micro-découverte.
C'est l'ambiance et le caractère design. Et c'est tout ça, c'est un tout en fait qui fait que ça fonctionne. Alors qu'à la base, c'est comme un concept idiot de pousser une boule et qui attrape tous les objets autour d'elle. Quoi.
Non, mais c'est vraiment le high concept absolu. Quoi. Mmh. Et donc, il est fan de Katamari, mais... On ne perd pas de vue que bientôt on a fini le mode quête de Terrorism. On arrive à 99%.
Oh là là.
Après 50 heures de jeu.
Il va falloir acheter les DLC.
Mais j'ai les DLC, tu rigoles. Okay. Attends, il y a la musique de Chrono Trigger.
Ok. Tu veux dire, il y a Never Gonna Give You Up de Rick Astley.
Ah non, t'es con.
Bah, dans Chrono Trigger.
Oui, mais bon, après, je vais te faire plaisir. J'ai essayé cette semaine DuckTales. Oh, pardon, Outine et History, les histoires de canards. Et j'ai essayé de lui montrer la série originale de 87.
Ouais.
Il était pas ouf, mais et aussi il y a un truc, c'est que le personnage féminin est moins fort en fait dans
Webby dans la version de 87 est nul en fait. C'est juste et les trois neveux sont tous identiques et ils ont rajouté Webby qui est comme les autres mais en fille.
Et surtout, c'est une série centrée sur Scrooge alors que dans l'autre, les arcs narratifs sont plutôt ceux des gamins. Et je crois qu'ils préfèrent la deuxième série, la nouvelle série.
Donc ils préfèrent la nouvelle série.
Je peux pas le blâmer hein, parce que tu
elle est tellement super.
Elle est super.
Je pense qu'on a beaucoup dit bien de la série DuckTales de 2017 dans After Eight.
Bah, t'as même recommandé le artbook.
Et j'avais recommandé l'artbook, ouais. De toute façon, on en dit du bien pour une bonne raison. La série mérite tous les éloges. Et surtout, j'étais chez toi quand t'as lancé l'épisode et on a entendu Donald parler en russe. Et le doubleur russe de Donald est incroyable.
Ah ouais,
j'ai pas regardé la VF pour comparer. Honnêtement, je sais pas du tout ce que donne le doubleur VF. Mais moi, le doublage anglais est tellement fou. Le casting, le cast est tellement génial que j'ai jamais regardé en VF. Mais en russe, Donald, il est génial, quoi. Le doubleur, il a parfaitement chopé la bonne manière de parler. De manière à ce que, c'est Donald et ses espèces de borborygmes. Mais tu comprends aussi quelques mots. Et ouais, non, c'est vraiment bien fait.
Mais non, vraiment une super trad, ouais. Écoute, vraiment, en tout cas, mon fils kiffe hein, pour l'instant, et donc j'espère que ça va continuer. Pokémon, j'ai essayé du bout des lèvres, mais ça peut pas trop.
Peut-être encore attendre un peu.
Avant non, mais rien. Je suis pas là pour lui imposer des goûts.
Oui, t'es pas là pour le formater, mais l'aider à découvrir des trucs.
Ouais. Mais après, de toute manière, pour ce genre de trucs, il aura pas besoin de moi pour le faire découvrir. Mais en même temps, tu sais quoi, tous les gamins de son âge, ils ont regardé Pat Patrouille et tout.
Ouais.
Et après. C'est quoi? Comme ils n'ont plus le rendez-vous télé, il n'y a plus de socle commun de connaissances, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que maintenant, même les gamins qui ont vu Pat Patrouille, il y en a qui n'ont pas vu Pat Patrouille parce qu'ils n'ont pas Netflix ou quoi que ce soit, machin.
Bah, donc... C'est sûr que nous, à notre époque, quand il y avait 6 chaînes, tu avais des choix relativement limités, quoi. Surtout sur les 6, il n'y avait pas forcément des programmes jeunesse sur toutes.
On avait tous vu Capitaine Flamme, on avait tous vu Ulysse 31, on avait tout. Et du coup, je me dis, c'est bizarre parce que le meilleur ami de mon fils. Lui, il regarde Ninjago ou je sais pas quoi. Enfin.
Ouais, la série Lego Ninjago. Ouais. Ouais.
Donc du coup, ils sont pas. Et du coup, ils ont ce truc très décalé. Ils sont pas. Et je me demande comment ils vont tous grandir en étant tous. Est-ce qui va les réunir? Est-ce que c'est les youtubeurs, les influenceurs?
Mais eux, je pense que clairement, il y aura pas de film Saint Seiya du genre Saint Seiya 30 ans après. Il y aura pas de film de ce genre là.
Ah, c'est vrai qu'il y aura pas de legacy quel.
Parce que je pense qu'il y aura pas de truc aussi générationnel. Alors après, peut-être que je me plante complètement et que. En fait, leur truc générationnel, ce sera les mêmes que ceux qu'on a maintenant, j'en sais rien.
Mais... Bah, il y a Harry Potter, hein. C'est le dernier gros truc générationnel.
Mais peut-être. C'est un des derniers gros trucs générationnels, je pense, ouais, vraiment.
Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, Hunger Games, donc on en a parlé, ouais.
Ouais, mais je sais pas si je comparais Hunger Games à Harry Potter. Harry Potter, c'est vraiment plus gros.
Ouais, mais comme c'est basé sur
Hunger Games, franchement.
C'est basé sur un événement littéraire.
Hunger Games, je sais pas si le préquel va marcher parce que globalement, c'est une saga dont plus personne ne parle, quoi.
Ouais, mais tu sais quoi? Je disais ça de Avatar. et tu vois bien que Avatar est resté dans dans l'histoire de la pop culture quand même.
Donc du coup, tu es en train de dire que Hunger Games peut-être laissera une aussi grande trace qu'Avatar dans la pop culture.
Mais je sais pas, mais tu sais, pour plein de gens, Hunger Games était important. Hein.
Bien sûr. Ouais.
En particulier à Ivry, à Juvisy, où ils ont tourné les scènes.
Non, mais il y a évidemment énormément de gens qui ont lu les livres, parce que c'était d'abord un succès en livre avant d'être adapté au ciné. Et donc ouais, mais est-ce que ça aura la même importance? Est-ce qu'il y a des gens qui vont à des conventions Hunger Games? Est-ce qu'il y a des gens qui se cosplayent en personnage d'Hunger Games?
Est-ce qu'il y a des gens qui se cosplayent en...
Un Harry Potter?
Ou en avoir Harry Potter, ouais, non, j'allais dire.
Non, de Harry Potter, carrément.
Mais en Avatar, est-ce que maintenant, il y a eu ça a relancé le truc ou pas?
Alors, des cosplays, je sais pas, mais on a vu des comptes Instagram giga cringe de gens qui se prennent pour des navis, donc ça existe.
Faut que je te dise un truc. J'étais dans un pays très lointain, un moment pour mes vacances.
La Belgique?
Non, c'est Kenya. Et il y avait une trace, de la trace de la pop culture d'Avatar, puisque dans les Chocapic locaux, il y avait la trousse Avatar.
D'accord.
Et moi, je suis un peu farceur, j'ai pris la trousse, et ma meuf a dit, on garde pas ça. Et moi, je voulais pas laisser la trousse Avatar, donc du coup, je l'ai mis dans la sac de mon pote, et je lui ai dit...
Tu me la gardes.
Non, je lui ai dit, hey, si tu regardes bien dans ton sac au fond, il y a une trace de pop culture. Elle n'est pas très belle, la trousse. Hein. C'est un peu comme le truc à maquillage.
C'est un peu comme Avatar.
Il y avait je crois que quand je marchais dans les rues au moment de Noël, j'ai vu qu'il y avait des sponsorings avec des trucs de maquillage.
Pour se déguiser, enfin pour faire...
Pas forcément, mais pour faire...
Pour faire un blue face,
pour mettre un peu plus de blue.
Ouais.
Ouais, tu sais, pour...
Mettez du bleu dans votre vie.
Bah ouais, voilà, non mais oui, exactement. C'est quoi notre prochaine étape blockbuster à part The Flash, là, je suis en train de me dire?
Bah Indiana Jones pour moi.
Indiana Jones.
Tu l'as déjà vu.
Ouais.
Je pense pas que tu vas le revoir.
Non, ça va, une fois, ça suffit.
Ouais, ouais. Ben, donc, il y a la préquelle d'Hunger Games dont on a dit que.
C'est quoi, j'aimerais trop revoir Spider-Man aussi, mais bon. Mais je me dis, putain, c'est 2h30 quand même.
Ouais, ouais, ouais. Mais, dans les. Bah, à part Flash, ouais, Flash, c'est vraiment le gros truc pour le coup, parce que Flash, c'est vraiment le truc où ça passe ou ça casse, en fait. Mm. J'ai pas envie d'y croire.
Visiblement, ça a beaucoup cassé.
Ouais, il y a des gens qui l'ont vu déjà.
Non. Alors, les retours que j'ai sont super positifs, par contre.
C'est inquiétant, quand même.
C'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi.
Je suis très curieux, au final.
Ouais.
Parce que ça va, c'est vraiment, c'est potentiellement un accident industriel, mais écoute, si c'est réussi, tant mieux. Moi, je préfère voir des bons films, hein.
Tu sais quoi, Benji, on va s'arrêter là.
Ouais.
On va pas faire de reco parce que on a pas préparé tout ça.
Bah là, on a recommandé Across the Spider-Verse.
Et Transformers aussi.
Et Street Fighter 6.
Et Transformers.
Et DuckTales en russe ou non.
Et Transformers. Ah, pardon.
Et Bumblebee, si vous voulez voir un bon film Transformers.
Tu sais que moi, mon film préféré de Transformers, c'est l'animé. C'est celui qui s'appelle Transformers The Motion Picture.
Ouais, d'ailleurs, il y a la musique d'Unicron du film de 87 dans le film là.
Bah oui, évidemment, tu peux
ils
pas.
Ils ont pris son thème.
Bah oui.
Parce que oui, il y a Unicron dans le film.
Qui n'est pas doublé par Orson Welles, bizarrement.
Mais c'est marrant.
Ouais, c'est bizarre.
Ils auraient pu se démerder avec des IA et tout.
Oui. On voulait aller avoir Leonard Nimoy, on l'a pas eu.
Quel dommage.
Donc, ce qu'on va faire, Benji, c'est qu'on va s'arrêter là. Et comme on se revoit peut-être demain ou après-demain, on va se garder sous la pédale. Peut-être qu'on fera un after. Un after afterite.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, ça fera un bonus épisode.
Ça, ouais, et puis en espérant que peut-être on soit moins malade, donc ça soit moins l'enfer à monter.
Tu sais que pour que je sois moins malade, il faudrait qu'il pleuve maintenant, genre maintenant.
Ouais, là, c'est mal barré. Hein.
J'ai regardé la météo,
on
c'est
regarde
genre...
par la fenêtre, il y a
soleil.
Un tout petit nuage minuscule au milieu d'un ciel bleu.
Non, c'est soleil de ouf. Ouais, en plus, je suis sûr que c'est un nuage qui nous apporte. Qui va rien nous apporter.
C'est un nuage de
dioxine. Ouais, exactement. On vous embrasse très fort. On vous rappelle qu'After Eight, c'est un podcast qui peut être écouté sur toutes les plateformes de podcast et sur aftereight.fr. La liste, elle est mise à jour parfois. Donc, patreon.com/RPU.
Ouais.
Je ne suis pas trompé.
Mais c'est bien.
Mais je l'ai mis à la toute fin.
Pour qu'on puisse continuer d'aller voir des films comme ça.
Oui, oui, exactement. Pour faire cet épisode spécial aussi.
Ouais, aussi. Ouais.
C'est grâce à ça, c'est grâce à vous donc qu'on arrive et on est heureux de faire au moins un épisode par an en live. C'est quand même chouette.
C'est presque la garantie hors pandémie d'un épisode live par an. Enfin, live. C'est-à-dire qu'on est tous les deux dans la même pièce. C'est pas live au sens, il y a des...
T'es venu l'année dernière, mais t'es pas venu pendant 2 ans.
Je suis pas venu pendant 3 ans, à cause du Covid.
Et t'es venu l'année dernière.
Ouais, je suis venu l'année dernière. Ouais, je suis pas venu de 2020 à 2022.
Ouais.
Donc 3 ans.
Ouais, c'est fou. Et tu sais quoi, bientôt, je vais aller au Japon.
Ouais.
J'y crois même plus, mais ça fait tellement d'années. Putain, j'y crois même plus. On vous embrasse très fort, et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Gros bisous, ciao.
Ah ouais, super.
Ouais.
Ah bah bravo, dès que qu'on allume, ça y est, tu tousses.
Si t'avais un Kleenex en rap, je dis pas non.
Ah merde, j'ai commenté des Kleenex, ils arrivent demain.
Là, je vais renifler juste.
Ah bah, ils sont là.
Ah, ils sont là, juste à côté de moi.
Ils sont là. Hop. Si tu nous entends. Bah voilà, c'est...
On est tous les deux malades comme des chiens. Ah là là. Je sais pas pourquoi on dit malade comme un chien, d'ailleurs.
Je sais pas. Tu on t'entend pas quand tu dis malade comme un chien parce que tu.
Parce que j'ai posé mon micro, c'est que de ma bouche.
Ouais.
Donc là, Baptiste, il m'entend peut-être dans ton micro.
Oui, mais bon, c'est pas utilisable.
Voilà.
Le dernier truc que j'ai cherché sur mon téléphone, c'est Mac Tyson, les nouvelles histoires.
The New Stories of Mac Tyson.
Encore une fois, ça va être un épisode de qualité.
Ça va être la grosse qualité.
Est-ce que ça vaut le coup que je dise After Eight, c'est l'épisode combien?
Putain.
Les mecs, ils ont rien préparé.
163, je crois.
Tu veux de l'eau?
Je veux bien de l'eau.
Non, c'est le biberon de mon fils. C'est le 162.
162.
Allez, je vais te chercher de l'eau.
Le précédent s'appelait Tragédie à la Wenhagen. 11 mai. Ah ouais, c'est presque à moi. Ah, ça va être laborieux. Ah, on sort d'un film compliqué, dont on va parler. Hein. À base de gros robots qui font pom-pom-pom-pom. Avec M.C. Solar qui rappe à la fin, c'est aussi, c'est compliqué.
encore une fois pour vérifier. Ouais. Ah, ben oui, ça marchera beaucoup moins bien si je mange, branche pas
si tu casque. Branches pas ton casque, ouais.
Ouais, bravo. Tout à fait. Ah, ouais, ouais, là, ça marche bien. Et toi, vas-y, parle.
Alors, moi, je parle.
Ça va, ça va, super.
C'est bon.
C'est super.
Parfait.
Hop.
Une production RPU.